Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'écho à contre-courant où nous continuons la série que nous avons engagée autour du capitalisme et de ses crises avec aujourd'hui Cédric Durand qui est économiste à l'Université de Genève. Bonjour.
Bonjour.
Et qui publie donc aux éditions Zone ce livre « Techno-féodalisme » qui propose en quelque sorte une lecture de l'évolution du capitalisme contemporain vers une forme de féodalisme. Alors on avait reçu voici quelque temps, dans le cadre de cette série, dans la première émission de cette série, Alain Bir qui nous avait expliqué comment on était passé du féodalisme au capitalisme et comment le capitalisme contemporain d'ailleurs était soumis à des forces de dislocation. Cédric Durand, vous analysez donc dans ce livre comment finalement le capitalisme contemporain, loin de dépasser ce féodalisme dont il est originaire lui-même, finalement il retourne par un moyen assez surprenant qui est eh bien, la modernité technologique qui, en fait, entraîne le mode de production capitaliste vers un retour à la rente féodale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus qu'est-ce que vous entendez par techno-féodalisme ?
Mais peut-être la première chose, c'est de dire qu'on n'en a pas fini avec le féodalisme. Et on n'en a pas fini, non pas seulement en économie, mais dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le domaine du droit, les juristes parlent de féodalisation du droit aujourd'hui à propos de la fragmentation du droit qui multiplie les particularismes. On a également, dans le domaine du management, le regretté David Graeber analysé un féodalisme managérial où il y a des sortes de managers qui se créent des fiefs et des loyautés particulières. Bon. Et on peut multiplier les domaines. Hein, dans la dégradation du débat public, on peut aussi voir une forme de reféodalisation de la sphère publique. C'est le philosophe Habermas qui parlait de ça. Alors, moi, j'analyse du point de vue des rapports économiques, cette question d'une forme de retour du féodalisme ou de dégénérescence du capitalisme dans quelque chose qui lui a préexisté. Et j'associe cette évolution à l'essor du numérique. Et donc là, si vous voulez, il y a une forme de paradoxe. Hein. C'est-à-dire qu'au tournant des années 1990, l'essor du numérique avait été perçu et avait été analysé comme une chance pour le capitalisme de se renouveler, d'avoir une nouvelle cure de jouvence. Hein. L'idée, c'est qu'il allait y avoir davantage de concurrence, davantage de productivité. Finalement, un capitalisme vraiment concurrentiel, avec beaucoup d'innovation, allait émerger. En fin de compte, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'on voit émerger, c'est au contraire une forme de dégradation des rapports capitalistes dans quelque chose qui est un dépassement par le bas. C'est bien l'idée de régression. Alors pourquoi parler de reféodalisation à propos des rapports économiques contemporains ? Eh bien, il y a principalement deux logiques qui correspondent à cette reféodalisation. La première, c'est une logique d'attachement, de dépendance. Le capitalisme, finalement, la grande rupture entre capitalisme et féodalisme, c'est que les travailleurs, les serfs, deviennent détachés de la terre, détachés des moyens de production, et donc, certes, doivent trouver à se vendre auprès d'un capitaliste, sont toujours soumis, sont toujours dominés, mais néanmoins, avec une possibilité de circulation, une forme de liberté.
Ils sont formellement libres de choisir leur employeur.
Exactement. Ils sont formellement libres de choisir leur employeur, et c'est pas seulement formel. C'est-à-dire que, du coup, il y a des conditions sociales qui s'imposent à chacune des relations particulières, qui découle de cette liberté. Aujourd'hui, on voit ressurgir la figure de l'attachement et de la dépendance. Et de quelle façon ? Eh bien, à travers les traces numériques que l'on laisse, les big data, les algorithmes qui nous aident à gérer notre quotidien et qui finalement nous attachent petit à petit à des plateformes. Alors ça, c'est ce qu'on expérimente au niveau individu. Mais ça va bien au-delà de notre attachement individuel aux plateformes. C'est l'ensemble des relations économiques qui aujourd'hui sont cristallisées, contrôlées dans le cadre de ce système d'information. Et les entreprises subordonnées, par exemple, dans le cadre des chaînes de valeur, sont également dépendantes vis-à-vis des firmes leaders qui contrôlent ces systèmes d'information. Donc on voit ressurgir cette figure de l'attachement. C'est la première chose. Hein. Dépendance, attachement, c'est la première domination. La première logique. La deuxième logique, qui est une forme de résurgence du féodalisme, c'est la logique de prédation. Dans le capitalisme, la concurrence impose aux capitalistes d'investir pour être plus efficaces et pour gagner sur leurs concurrents, gagner des parts de marché ou simplement survivre. Dans le féodalisme, la logique était tout à fait différente. Les classes dominantes, les nobles, ils investissaient dans la guerre pour étendre leur domaine. Et donc finalement, le jeu social était une forme de jeu à somme nulle. Eh bien, on a un peu le même type de logique aujourd'hui avec le numérique. Les plateformes numériques, ce qui est déterminant pour elles, c'est d'élargir leur accès aux données, d'élargir leur surface sociale, d'élargir finalement...
Les OPA qu'on voit dans ce domaine des technologies.
Exactement. Et donc, du coup, la logique de concentration est une logique qui correspond à la logique d'investissement propre à ce forme de féodalisme contemporain. Donc voilà, attachement d'un côté, d'un autre côté, un investissement non pas tourné vers la production, mais un investissement tourné vers la conquête, la prédation, la conquête de nouveaux espaces économiques et sociaux. C'est finalement ces deux éléments qui constituent des tendances à la reféodalisation propre au monde contemporain.
Et c'est là où votre analyse est intéressante, parce que en fait, l'idée que finalement les géants du numérique constituent des rentes est une idée aujourd'hui assez répandue et plutôt acceptée, y compris par les milieux orthodoxes. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, ces rentes représentent ce que Marx appelait à propos du féodalisme la prise en main extra-économique des revenus, à la différence du capitalisme qui génère des revenus économiques issus de l'activité économique.
Exactement. Parce que la connexion entre ces deux éléments, d'un côté la dépendance et de l'autre côté la prédation, c'est justement cette fusion de l'économique et du politique. Les seigneurs, ils dominent les serfs. Il y a un rapport politique de subordination des serfs aux seigneurs. Et c'est de ce rapport politique de subordination, de cette domination par la force, que naît la capacité des seigneurs à extraire un revenu. Aujourd'hui, dans les relations de prédation qui se déploient, c'est bien cette situation de domination, de surplomb, qui permet aux plateformes de s'approprier une partie du surplus. Et non pas directement les effets utiles qu'elles produisent. C'est vraiment l'attachement qui est là. Alors peut-être qu'il faut s'arrêter un instant sur la nature de ce surplus, parce qu'évidemment, l'analogie avec le féodalisme a ses limites. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que les terres numériques...
C'est un élément important, c'est-à-dire que ce que vous appelez techno-féodalisme, c'est bien un féodalisme issu de la dislocation, en quelque sorte, du capitalisme, qui n'est pas une reproduction pure et simple du féodalisme médiéval.
Bien entendu. Donc, quelle est la nature de ce surplomb? La nature de ce surplomb, eh bien, c'est finalement la capacité des plateformes numériques à absorber quelque chose qui est de l'ordre de notre coopération sociale et à cristalliser, à objectiver ce quelque chose qui est de l'ordre de notre coopération sociale, qui est le fait que chacune de nos traces individuelles fait sens, constitue une grammaire commune dès lors qu'elle est mise en comparaison avec les grammaires des autres. Et que de cette grammaire commune, on peut tirer des effets utiles dont chacun individuellement peut bénéficier. Et donc, ce caractère absolument social des traces numériques est ce que s'approprient les plateformes numériques et ce dont elles peuvent user pour exercer un pouvoir de domination politique. C'est bien pour ça que Shoshana Zuboff a raison sur un aspect de son analyse. C'est une autrice qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Capitalisme de la surveillance ». Elle met l'accent sur cette position de surplomb, sur cette domination politique propre à la logique des plateformes numériques. Et donc, cet élément-là est très central. Par contre, ce qui manque, à mon avis, chez Shoshana Zuboff, et ce sur quoi j'essaie d'insister, c'est sur la conséquence économique de ça. Et la conséquence économique de ça, c'est une logique de prédation.
Alors, un dernier mot sur cette situation, je dirais, sous-jacente, et puis on va en venir à la crise actuelle. Mais la position, en fait, du capitalisme aujourd'hui, le problème principal du capitalisme contemporain, évidemment, c'est ce ralentissement des gains de productivité que l'on constate depuis le milieu des années 70, qui est au cœur, en fait, de tous les bouleversements et de toutes les difficultés qu'on connaît. Et vous y consacrez un chapitre, plus un annexe dans votre livre, parce que c'est un élément important, parce qu'on a là, en fait, un débat autour du fait, est-ce que le capitalisme, d'une certaine façon, est encore... opérons d'une certaine façon. Est-ce que, effectivement, si on, comme certains le disent, on libère, on favorise l'innovation, on développe la technologie, eh bien, on va finir par voir ces gains de productivité arriver. Est-ce qu'on a un mauvais mode de calcul des gains de productivité qui fait qu'on n'arrive pas à les voir? Ou est-ce que, comme vous le défendez, finalement, eh bien, ces gains de productivité ne sont plus tournés finalement vers... les investissements, pardon, ne sont plus tournés vers les gains de productivité, mais justement vers la prédation.
Oui, donc vous avez raison d'insister sur ce lien entre innovation, productivité, croissance et puis bien-être plus largement. Et c'est l'idée, l'économiste central ici, c'est Philippe Aguillon. Et Philippe Aguillon, c'est, si vous voulez, l'esprit...
Professeur au Collège de France,
professeur au Collège de France.
Proche qui a été un proche d'Emmanuel Macron.
Voilà, et qui est vraiment, si vous voulez, l'esprit théorique derrière l'idée de la Startup Nation, et c'est vraiment l'esprit du consensus de la Silicon Valley. Et qu'est-ce que nous dit Philippe Aguillon ? Au fond, ce que nous dit Philippe Aguillon, c'est la chose suivante. Il faut certes que les marchés soient libres, donc ça, c'est l'histoire du consensus de Washington, il faut que le travail soit flexible, que le capital puisse circuler librement, etc. Donc ça, c'est, ça, on connaissait déjà. Mais il rajoute quelque chose. Il nous dit ce qui est déterminant, c'est les incitations. Il faut que les innovateurs puissent soient incités à investir et donc chacun, tout le monde bénéficiera de cet effort d'innovation. Et donc, il faut protéger leur propriété intellectuelle et puis aussi, il faut avoir une fiscalité sur le capital qui soit très faible parce que sinon, ça pourrait les désinciter. Donc, il y a plein de problèmes là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si on accepte les prémices de Philippe Aguillon, on bute sur un os. Pourquoi ? Parce que les droits de propriété intellectuelle ont été renforcés. Les incitations ont été améliorées. Et effectivement, il y a plus d'innovation, en tous les cas, plus d'innovation telle que mesurée par les brevets et par l'utilisation des brevets. Et donc, de façon très, très satisfaisante, finalement, les prémices sur les incitations ont permis de matérialiser cette innovation. Mais par contre, la productivité, la croissance, le bien-être, ils ne sont pas là.
C'est le lien qui manque.
Voilà, c'est le lien qui manque. Et alors là, c'est la panique théorique, puisqu'il n'y a pas d'explication adéquate dans le mainstream pour expliquer ça. Et Philippe Aguillon bute vraiment là-dessus. Il dit, je ne sais pas. Alors d'abord, il nous a expliqué que c'était un problème de mesure. Alors certes, on peut réévaluer les mesures, mais dans ce cas-là...
Casse le thermomètre quand ça ne fonctionne pas.
Oui, mais et même ça ne fonctionne pas parce que la tendance reste la même. Donc finalement, il n'y a pas d'explication en plus qui est apportée par le changement de mesure. Et ensuite, on doit passer dans un autre monde. On doit dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence, c'est la politique monétaire, etc. Mais du coup, le cadre théorique a perdu sa cohérence. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Quelle histoire différente on peut raconter ? Eh bien, l'histoire différente et l'hypothèse que je développe dans le livre, c'est que finalement, le genre d'effet utile associé au numérique ne rentre pas bien dans la marchandise. Et ça, on peut le comprendre de façon assez simple. Si vous regardez Google, effectivement, Google est extrêmement utile. Faire de la recherche avec Google, c'est extrêmement pratique. Utiliser Google Maps, c'est extrêmement pratique. Il y a toute une série de choses qui, au quotidien, nous aident véritablement. Et la mise en connexion de ces différents éléments est certes effrayante d'un point de vue politique, mais a un côté pratique indéniable. Il y a des effets utiles dans le numérique. Et on peut le multiplier sur l'ensemble des plateformes. Mais ces effets utiles, finalement, sont très difficiles à capturer par la marchandise. Et là, comment les entreprises font pour marchandiser ça ? Eh bien, elles ne vendent pas ces services. Elles sont obligées de vendre d'autres services, de la publicité, des services parallèles, si vous voulez. Et donc, il y a une forme de désadéquation entre l'effet utile, si vous voulez, la valeur d'usage, et la valeur d'échange. Et dans ce processus-là, se produit une forme d'inadéquation des processus économiques à leur potentialité. Et d'une certaine façon, le maintien des relations marchandes telles qu'elles existent aujourd'hui se fait au prix d'une inefficacité toujours plus croissante et d'une insatisfaction par rapport à ce que pourraient nous apporter les produits numériques.
Donc on est dans une forme d'aporie à la fois théorique et politique, d'une certaine façon.
Voilà, absolument. Donc on a ce processus où on essaye toujours davantage de marchandiser. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, donc, la réponse qui est apportée par le mainstream face à cette monopolisation évidente, il faut bien faire quelque chose. Donc la question de l'heure, c'est comment réduire le poids des plateformes, alors soit par leur démantèlement, soit éventuellement restriction de leur espace d'intervention à tel ou tel champ, etc. Et une des choses qui s'est mise en place récemment, c'est le fait que Google doivent que les fabricants de smartphones doivent soumettre à des enchères le fait que dans les systèmes Android qui sont embarqués sur les smartphones, le moteur de recherche soit Google, soit un autre moteur de recherche, celui qui est donné par défaut quand on achète un téléphone. Mais des enchères, ça implique quoi ? Ça implique que le prix qui va être payé pour avoir son moteur de recherche anticipe sur la capacité à générer du profit après. C'est-à-dire que plus le prix le plus élevé implique qu'il y aura davantage de données qui seront extraites des consommateurs, davantage de publicités, au fond, qui seront vendues aux consommateurs, et pas davantage d'effets utiles. C'est-à-dire que donc...
Plus de rente, finalement.
Voilà, plus de rente. C'est-à-dire qu'on a un système d'enchères qui conduit à attribuer l'accès au téléphone des individus à ceux qui vont être capables de finalement être le moins utile aux individus, ou en tous les cas, d'être capables de s'approprier le maximum de leurs données personnelles, de leur attention, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'absolument pervers, puisque à l'inverse, ce qu'on est en droit d'espérer d'un système, d'un moteur de recherche, c'est d'être finalement le plus fiable possible, le plus neutre possible, celui qui biaiserait le moins l'information à laquelle on aurait accès. Alors, pourquoi pas réfléchir, hein, dans ce domaine des plateformes numériques, à quelque chose qui serait un peu de l'ordre de la même chose que les médias? Pourquoi pas avoir des médias publics, des plateformes publiques qui donnent toute une série de garanties qui permettent d'avoir une qualité, une transparence dans la formation de l'information? Ça interdit pas qu'il y ait d'autres dispositifs qui puissent exister, qui soient parallèles, qui puissent, mais qu'au moins il y ait cette base fiable, solide, transparente, qui soit accessible à tous. À mon avis, c'est dans cette direction qu'il faut réfléchir davantage que dans la direction de réinstaurer plus de concurrence, qui est celle aujourd'hui suivie par les autorités, à la fois en Europe et aux États-Unis.
Alors on va passer un peu à la situation actuelle et à cette place du techno-féodalisme dans la crise actuelle du capitalisme, qui n'est pas liée directement à cette évolution-là, mais plutôt à celle de la pandémie. Alors on avait prévu en fait d'inviter Robert Boyer, donc qui vient de publier aux éditions La Découverte les capitalismes à l'heure de la pandémie. Pour des raisons sanitaires, il n'a pas pu venir, mais je vais me faire son porte-parole indirect. Dans son ouvrage, il dit ben voilà, la pandémie peut finalement déboucher sur le renforcement des tendances sous-jacentes du capitalisme actuel, qui sont à la fois ce qu'il appelle un capitalisme de plateforme, ce que vous appelez un techno-féodalisme, on va y venir, un capitalisme étatisé, hein, type Chine, Russie, etc., mais même, on le voit aussi dans les pays occidentaux, hein, l'État va prendre de plus en plus d'importance, et puis un capitalisme financiarisé. Et finalement, je me dis qu'en lisant votre ouvrage, on se dit ce techno-féodalisme, c'est un peu ce mélange des trois. La plateforme, la finance, qui est une forme de rente, hein, d'une certaine façon, parce qu'elle est déconnectée de plus en plus de la réalité économique, elle aussi. Hein, on parlait de la faiblesse de la productivité, de la croissance. Ça tranche évidemment avec les records qu'il y a sur les marchés financiers régulièrement. Cette importance de l'État qui est croissante. Et vous, là aussi, dans le livre, vous expliquez bien ce rapport de l'État avec ce nouveau féodalisme qui a un rapport un peu ambigu. Alors, deux questions. D'abord, est-ce que, justement, ce développement de l'étatisation de l'économie est incompatible ou compatible avec le techno-féodalisme? Et est-ce que le renforcement, justement, des tendances sous-jacentes du capitalisme n'est pas, justement, l'arrêt de mort, en quelque sorte, ou en tout cas de dégénérescence du dit capitalisme?
Merci beaucoup pour cette question et pour le livre de Robert Boyer est extrêmement stimulant, hein, puisque vraiment il prend à bras le corps la conjoncture ces derniers mois, il fait des hypothèses extrêmement fortes. Alors peut-être pour réagir par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je voudrais distinguer trois niveaux. Hein. Le niveau du capitalisme de plateforme versus techno-féodalisme, la question du politique et de l'économique, et puis la question de la finance elle-même. Pour ce qui est du capitalisme de plateforme, Robert Boyer a absolument de raison de souligner le fait qu'aujourd'hui, il y a un capitalisme de plateforme dans le sens où les capitaux vont vers les plateformes. Au début des années 2000, il n'y avait aucune entreprise du numérique à part Microsoft dans les grandes capitalisations boursières mondiales. Aujourd'hui, sur les 10 premières, il y en a 8 qui sont associées à l'économie du numérique. Donc il y a vraiment un changement qualitatif du capitalisme qui se cristallise par le fait que les capitaux sont investis dans le numérique. Voilà, c'est le nouveau secteur dominant. Bon. Donc ça, dans ce sens-là, il y a un capitalisme de plateforme. Pour autant, est-ce que les relations économiques associées au numérique sont des relations économiques capitalistes de la même manière que l'était, si on veut, le capitalisme industriel, avec cette logique de concurrence, de gain de productivité, etc. À mon avis, non. Et c'est ce que j'essaie de pointer dans le livre, l'idée qu'il y a une logique économique spécifique associée à ce type de dispositif technique. Et bon, donc on pourrait rentrer un peu dans le détail, mais des histoires de structure de coûts, etc. Donc ça, c'est la première chose. Là, il y a un premier point de tension. Un deuxième point de tension concerne les rapports entre politique et économique. Robert Boyer insiste sur le fait que finalement le modèle occidental, le modèle américain, c'est le modèle du capitalisme de plateforme. L'Europe est en train de se disloquer, donc là on est d'accord, en tous les cas si elle ne se disloque pas, elle est de plus en plus faible et elle est clairement, il n'y a pas de modèle européen fort qui émerge depuis 20 dernières années. Puis on a un troisième modèle qui serait le modèle chinois autour d'une intervention forte de l'État, etc. À mon avis, il ne faut pas exagérer la différence entre les deux. Alors évidemment, il y a une grosse différence. Je cherche simplement à nuancer un petit peu. Et en particulier, en ce qui concerne les rapports entre numérique et politique. Parce que aux États-Unis, le numérique joue un rôle politique de plus en plus important. Les entreprises du numérique sont très présentes dans la prise de décision politique aujourd'hui, dans la manière dont s'organise le débat public. Et donc il y a vraiment à la fois l'organisation du débat public, qui est dans lequel les plateformes du numérique ont un rôle très important, mais également les dirigeants de Google, de Facebook, etc., sont de plus en plus présents dans la préparation des politiques elles-mêmes à l'échelle internationale, en termes de conseillers des gouvernements, etc. Donc il y a une forme de... C'est une puissance à la fois sociale et économique telle que les gouvernements sont obligés de s'y coltiner. D'autant plus, et là Robert Boyer l'explique très bien dans son livre, que les moyens statistiques, les moyens de compréhension du réel dont disposent aujourd'hui les plateformes sont extrêmement puissants par rapport aux appareils statistiques dont disposent les États.
Et d'ailleurs les instituts statistiques nationaux utilisent ces données aujourd'hui pour mesurer les effets directs de la crise sanitaire.
C'est absolument vrai. Donc là, on voit bien qu'il y a une forme de je dirais pas de fusion, mais de rapprochement, d'imbrication très forte, peut-être plus forte que dans d'autres formes de secteurs, entre le numérique et le politique en Occident. En Chine, c'est également vrai. Alors, on a beaucoup insisté sur le système de crédit social chinois en Chine comme étant un mécanisme de surveillance politique. Ça l'est, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est un moyen également de construire l'économie de marché en Chine dans le sens de sécuriser les transactions. Hein, il y a une forme de défiance extrêmement importante qui est liée à la faiblesse des institutions, au fait que finalement, il y a de la triche, on manque de garanties, etc. Et ces systèmes numériques viennent finalement servent à encastrer les relations économiques dans quelque chose qui donne de la fiabilité aux contreparties, qui permet d'avoir des effets de réputation, de connaître ce qui se passe. Mais là aussi, il y a évidemment une imbrication très forte entre l'économique et le politique. Le politique incite le secteur privé à développer des systèmes de réputation. Il offre au secteur privé l'accès à cette base de données pour qu'ils puissent donner des réputations à leurs utilisateurs. Les utilisateurs, c'est les individus, mais c'est aussi les administrations, c'est aussi les entreprises privées, donc c'est toutes les entités. Et à l'inverse, le politique essaye d'intégrer, alors ça va pas, c'est pas simple, hein, le projet avance difficilement, etc. Mais le secteur public essaye d'intégrer, pour gouverner la société, ces informations qui sont centralisées par les plateformes numériques en Chine. Donc dans les deux cas, hein, même si c'est des modalités différentes, il y a une forme de rapprochement politique entre les entreprises du numérique et l'État. Hein, et distinguer de manière trop importante ces deux éléments conduit à masquer ce qui finalement participe d'une évolution commune qui est la place centrale du numérique à la fois dans la dynamique économique et politique.
Alors est-ce que finalement, dans l'histoire du féodalisme traditionnel, il y a eu cette dynamique, cette dialectique entre les forces féodales et l'État ? Et dans le cas français, par exemple, d'une certaine façon, il y a eu une forme d'équilibre entre un État qui entretenait finalement le féodalisme via les systèmes de cours, etc., et qui a donc maintenu un féodalisme qui n'existait plus sur le terrain, on va dire, au niveau de l'État jusqu'en 1789. En Angleterre, on a trouvé d'autres équilibres qui ont donné lieu d'ailleurs à la naissance du capitalisme. Mais est-ce que finalement, on va avoir dans le techno-féodalisme cette même dynamique entre l'État et les plateformes, où finalement on va essayer de trouver un équilibre, mais un équilibre qui finalement déboucherait sur la meilleure rente possible pour les deux entités.
Je ne sais pas si j'oserais faire des prévisions un peu claires sur ce thème. Mais je suis pas certain du tout qu'il y ait une forme de stabilité associée à ce qui est en train d'émerger aujourd'hui. Hein, l'idée qu'il y ait une forme de spontané d'ajustement qui se mettra en place entre où l'État et les plateformes trouveront. Je pense qu'au contraire, il y a des facteurs d'instabilité extrêmement nombreux. À la fois du point de vue interne, puisque ces plateformes nourrissent des inégalités extrêmes, et ça va continuer. Il y a une logique interne à ces plateformes à centraliser la richesse et du coup à polariser la distribution des revenus. Et donc ça, c'est un facteur d'instabilité, évidemment. D'autre part, il y a un facteur de dégradation de la délibération démocratique, du fonctionnement démocratique. Alors on le voit, c'est très largement discuté aujourd'hui, mais ça se manifeste aussi de façon très concrète par la dégradation du débat public qu'on peut observer aujourd'hui. Et donc ça aussi, c'est un facteur de crise, c'est quelque chose qui nourrit de l'instabilité. Et puis enfin, au niveau international, on voit bien que c'est un système qui est en train de se disloquer. Il y a une forme de monde multipolaire qui est en train d'émerger. Donc tous ces éléments-là plaident pas pour de la stabilité. Je pense plutôt qu'on est dans un moment de transition. Hein. Il y a toute une série de cycle qui se termine en 2020, on peut dire un cycle qui est celui de l'hégémonie américaine sans doute, un autre cycle qui est celui plus court du néolibéralisme. Donc il y a une série on arrive à une série de tournants, un cycle écologique peut-être avec la question écologique qui va occuper une place encore plus centrale. Donc sans doute on rentre dans un moment d'instabilité. J'irais plutôt dans cette direction-là. L'instabilité est toujours relative et temporaire, mais pour les temps qui viennent, je serai plutôt de ce côté-là.
Vous avez publié au mois de juillet donc un article intéressant sur la deuxième mort du néolibéralisme, faisant de la crise de 2020 après celle de 2008 finalement la deuxième étape de la mise à mort du système néolibéral, donc qui a commencé avec le consensus de Washington, qui a essayé de se régénérer avec celui de la Silicon Valley. Finalement, si on vous écoute, donc on va vers effectivement un élément un peu d'instabilité avec. Qui ressemble beaucoup finalement au premier temps du féodalisme, avec ces plateformes qui sont les seuls éléments de pouvoir un peu stables et qui vont en profiter finalement pour s'enrichir. Est-ce qu'il y a un scénario alternatif? Est-ce qu'on peut réfléchir à autre chose? Est-ce que dans cette dégénérescence du capitalisme, et ce sera ma dernière question, parce que votre analyse prend un peu à contre-pied l'analyse marxiste, qui veut que d'une certaine façon... la socialisation qui accompagne le développement du capitalisme débouche sur le socialisme. Vous dites finalement non, cette socialisation elle débouche sur une forme de féodalisme. Est-ce que ça ferme finalement les portes à toute forme de dépassement du capitalisme?
Non, je parle haut, je veux dire. Oui, bien sûr. Non, je ne pense pas. Et je pense même qu'il y a une série d'opportunités qui s'ouvrent avec cet emboîtement des crises contemporaines. D'abord, il y a une grande défaite idéologique des classes dominantes. Leur grand projet, depuis des décennies, c'est le projet néolibéral, et avec une idée simple, c'est que la mise en concurrence va permettre, en rétribuant les meilleures solutions mieux, d'obtenir un optimum social. C'est pas du tout ce qui se passe. Ça avait été prouvé au moment de 2008 que, du point de vue des marchés financiers, il n'y avait pas de stabilité endogène des marchés financiers, qu'on pouvait pas organiser le monde, finalement, puisque c'est ça, les marchés financiers, ils centralisent les ressources à l'échelle mondiale. On ne pouvait pas organiser le monde par ce mécanisme de centralisation-là. La crise de 2020, elle vient en rajouter une couche. Ce qu'on a, on s'en rend pas compte, mais l'intervention publique a été encore plus importante, le soutien au marché financier a été encore plus important en 2020 pour contenir le choc de la pandémie qu'en 2008. Alors, certes, la crise n'a pas été déclenchée par les marchés financiers, mais néanmoins, les marchés financiers n'ont servi à rien et ont dû être stabilisés. Donc là, il y a vraiment un effet répétition qui vient vraiment délégitimer l'idée que finalement, la libre circulation des capitaux serait suffisante. D'autre part, au-delà des marchés financiers, c'est la logique de la concurrence elle-même qui aujourd'hui est prise en défaut. Et on comprend les angoisses de Geoffroy de Bézieux devant la perspective d'un confinement qui se prolongerait parce que parce que de plus en plus une série de relations marchandes habituelles ne sont plus les questions importantes dans le moment. Et ce qu'on voit au contraire qui manque, ce qui fait défaut, c'est pas de la concurrence, c'est un État qui soit organisé, qui soit rationnel, où il y ait de la délibération qui permette de faire face à ce choc de façon organisée. Le degré d'impréparation que l'on observe au printemps et que l'on voit de nouveau aujourd'hui est véritablement inquiétant, il va laisser des traces. Il y a un nouvel agenda qui s'est ouvert, réorganiser l'action publique de façon...
Ça, c'est l'idée de la planification. On avait publié un entretien avec vous au mois de mars, au moment de la première, du premier confinement. C'est un sujet sur lequel vous travaillez également en profondeur, celui d'une nouvelle planification qui permettrait justement de sortir de ce chaos dans lequel le néolibéralisme nous a plongé.
Oui, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, ça serait que justement les ressources du numérique, les nouvelles capacités qu'on a à comprendre le social, soient mobilisées au service d'une nouvelle démocratie économique. Une démocratie économique non pas au niveau des entreprises seulement, même si c'est important, mais une démocratie économique qui se pose à l'échelle macroéconomique, qui soit liée aux politiques. Et là, il faut refaire vivre le débat sur la planification. Quelles sont les priorités du développement? De quelle manière se posent les choix? Quels sont les temps de délibération qu'on se donne pour arbitrer? Quelles sont les trajectoires de long terme que l'on veut adopter ensemble? C'est vraiment une question qui va se poser avec de plus en plus d'urgence. Et on a de nouveaux moyens pour penser la planification. On est au XXe siècle, on balbutiait avec des fiches et du bricolage. Aujourd'hui, on a vraiment des moyens de planifier qui sont beaucoup, beaucoup plus puissants. Ça, c'est c'est du côté de l'espoir. Il y a toute une série d'espaces qui s'ouvrent pour, finalement, avoir une forme de transformation post-capitaliste, post-hégémonie du néolibéralisme, autour d'une intervention de l'État démocratique adossée à cette planification. Évidemment, ça ne va pas de soi. D'un autre côté, des versants autoritaires existent de sortie du néolibéralisme. Ils existent dans différentes régions du monde. On peut penser en Europe de l'Est, par exemple. C'est les premiers qui, par exemple en Hongrie, du point de vue monétaire, à être sortis de l'orthodoxie. Mais néanmoins, il y a quand même un affaiblissement. Le discours, on ne va pas revenir au discours de l'austérité d'avant et du néolibéralisme d'avant. Je veux juste donner un chiffre, peut-être pour finir. La question de la dette publique, qui a été si centrale en 2010 et qui essaye de revenir à l'agenda. Il y a une vraie difficulté pour dire qu'aujourd'hui, il va falloir payer la dette publique et serrer la ceinture. Depuis le début de l'année, 71% de la dette en Europe a été rachetée par la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dette, elle appartient à qui? Elle doit être payée à qui? À nous-mêmes. Donc il y a vraiment une forme de discours sur la dette qui est en train de perdre toute sa puissance. Et donc là aussi, il y a un espace pour la gauche, il faut se souvenir de ça. Pas retomber dans les pièges d'avant. Donc voilà.
Se concentrer sur les vraies crises et pas sur les fausses crises ou sur les fausses peurs finalement.
Exactement.
On a agité pendant des années.
Voilà. On a des solutions pour les vraies crises, on a des nouvelles solutions pour les vraies crises. Et on a les moyens de comprendre que les fausses crises, les menaces que l'on nous agite sont en grande partie, du point de vue économique, des fausses menaces.
Merci beaucoup Cédric Durand pour cet entretien sur la situation actuelle du capitalisme et sa crise.
Merci pour cette invitation.
Et nous retrouvons pour une nouvelle étape bientôt de cette série sur le capitalisme et ses crises. À bientôt.